Chapitre 52. Arrivée de Don Quichotte chez lui, sa maladie, sa mort. Notre héros, transporté de joie en pensant que le tendre objet de ses fidèles amours venait de reprendre tous ses attraits, attendait impatiemment l'aurore et ne doutait point que ses premiers rayons ne lui fissent voir Dulcinée. L'aurore parut sans cette belle. Don Quichotte, surpris, continua son chemin en regardant de tous côtés si Dulcinée n'arrivait pas. À chaque femme qu'il rencontrait, son cœur battait avec violence. Il accourait vers elle rempli d'espoir. La voyageuse passait sans rien dire, et Don Quichotte soupirait douloureusement. 2 jours s'écoulèrent ainsi. Nos héros arrivèrent enfin sur le haut d'une colline d'où ils découvrirent leur village. À cette vue, Sancho se mit à genoux. « Ah, ma chère patrie, s'écria-t-il, tu vas revoir ton fils Sancho. Non bien riche, mais bien étrillé, reçois-le dans ton sein, ainsi que son maître le valeureux Don Quichotte, qui revient à la vérité vaincu, mais dont le nom n'en fera pas moins et ton honneur et ta gloire. » Don Quichotte dit à son écuyer de se lever, et tous deux entrèrent dans le village. Les premières personnes qu'ils rencontrèrent furent le curé et le bachelier Carrasco, qui sortaient pour se promener. À peine eurent-ils reconnu leur ancien ami qu'ils vinrent à lui les bras ouverts. Don Quichotte descendit de cheval, les serra contre sa poitrine et, les tenant tous deux par la main, prit le chemin de sa maison, suivi d'une foule d'enfants qui criaient de toute leur force. « Voici le seigneur Don Quichotte, voici le bon Sancho Panza. Venez, venez, madame Thérèse !» Thérèse accourt, à demi vêtue, avec sa fille Sanchette. Et ne voyant pas son mari dans l'équipage d'un gouverneur, « Qu'est ceci ? » dit-elle. « Mon homme, où est donc votre carrosse ? Où sont vos gens et votre équipage ? Je crois par ma foi que tu es à pied. »« Oui, femme, » lui répond Sancho, « mais tu peux toujours m'embrasser, car je t'apporte de l'argent, et de l'argent bien gagné, je t'assure. »« Ah, mon ami, mon bon ami, que je suis aise de te revoir. Je te trouve engraissé, mon fils. » « Embrasse donc ta fille Sanchette, qui t'attendait comme on attend la rosée du printemps. Viens, viens vite à notre maison. Nous avons, j'espère, bien des choses à dire. » À ces mots, la mère et la fille prennent Sancho par-dessous le bras, son âne par le licou, et les emmènent en les baisant tous deux. La gouvernante et la nièce, sorties pour recevoir Don Quichotte, firent éclater des transports de joie qui touchèrent notre héros. Il se pressa de leur raconter comment il avait été vaincu et comment il avait juré de ne porter les armes d'une année. Le bachelier et le curé s'efforcèrent en vain de le consoler. Rien ne put éclaircir la sombre tristesse qui se lisait sur son visage. Ses deux amis le quittèrent en lui recommandant de veiller sur sa santé, de songer à se distraire, ce qu'il promit d'un air sérieux. La gouvernante lui donna de longs et sages conseils qu'il écouta sans répondre. Et sa mélancolie augmenta le soir et le lendemain. Quelques jours se passèrent ainsi. Le silencieux Don Quichotte semblait ne prendre intérêt à rien. L'appétit, le sommeil l'avaient abandonné. Sans se plaindre, sans marquer d'humeur, il cherchait la solitude, rêvait, méditait sans cesse et cachait avec soin les pleurs qui souvent bordaient ses paupières. Le seul Sancho, lorsqu'il venait le voir, lui causait encore un léger sourire, mais c'était son unique réponse aux plaisanteries de son écuyer. Hélas, les malheureux humains, quelque distingués qu'ils soient, par leur grandeur, par leur gloire, par les dons de la nature, marchent toujours d'un pas rapide vers la tombe qui les attend. Don Quichotte était prêt d'y descendre. Soit que son heure fût venue, soit que le chagrin l'eût avancé, il fut pris d'une fièvre ardente qui le força de garder le lit. Pendant tout le temps de sa maladie, le curé, maître Nicolas et Carrasco ne quittèrent point leur ami. Le bon Sancho, triste, inquiet, ne sortit pas de sa chambre. On envoya chercher un médecin qui jugea que la mélancolie était la seule cause du mal. Sancho, malgré sa douleur sincère, redoubla d'efforts pour égayer son maître, lui parla de leur projet de se faire tous les deux bergers, du plaisir qu'ils auraient bientôt à jouer ensemble de la musette. Il ajouta qu'ils venaient d'acheter pour garder leur troupeau futur 2 superbes chiens dont l'un s'appelait Barcino et l'autre Butron. Le malade l'écoutait, le regardait tendrement et par son regard lui faisait comprendre qu'il pénétrait sa bonne intention. Le mal fit bientôt des progrès. Le médecin, au bout de 6 jours, ne donnait guère d'espérance. Don Quichotte sentait son état. Il le pria qu'on le laissât seul, parce qu'il voulait dormir. Ce sommeil dura près de 7 heures. La gouvernante et la nièce le pleuraient déjà comme mort. Mais tout à coup, Don Quichotte, réveillé, les appelle. « Mes chères filles, dit-il, rendez grâce au Dieu Tout-Puissant, dont l'infinie miséricorde vient de m'accorder aujourd'hui le plus signalé des bienfaits. « Mon cher oncle, répondit la nièce, que veut dire votre seigneurie ?»« Ma nièce, reprit-il doucement, c'est le bien le plus précieux à l'homme, celui qui seul peut lui procurer un peu de repos dans cette misérable vie, et le mettre à même d'obtenir dans l'autre la récompense des vertus. Ce bien si cher, c'est la raison. Je l'avais perdu, ma nièce, en employant mes trop longs loisirs à des lectures insensées. Le ciel me la rend aujourd'hui. Je n'en jouirai pas longtemps. Ma reconnaissance n'en est pas moins vive. Je veux profiter du moins de ces courts moments, les seuls que je puisse compter dans ma vie, pour réparer autant qu'il est en moi les erreurs de mon long égarement, pour faire le bien que je n'ai pas fait. Appelez donc, je vous prie, mon ami monsieur le curé, le bachelier Samson, maître Nicolas et le fidèle Sancho, à qui je dois demander pardon de lui avoir fait partager mon délire. » Comme il achevait ces paroles, ils arrivèrent tous quatre. « Mes amis, reprit le mourant, je vous demandais, je vous désirais. Hâtez-vous de me féliciter de ce que je ne suis plus Don Quichotte de la Manche. Je suis Alonso Quixano, que l'on surnommait autrefois le Bon. Cessez de voir en moi l'imitateur d'Amadis, de Galaor, de ces héros imaginaires que mon extravagance avait pris pour modèle. N'y voyez que votre voisin, votre fidèle ami, votre frère, dont le faible esprit, longtemps aliéné, retrouve à sa dernière heure assez de raisons pour se repentir. Profitons-en, monsieur le curé, daignez entendre l'aveu de mes fautes. Et vous, messieurs, pendant ce temps, faites venir, s'il vous plaît, un notaire pour qu'il écrive mes dernières volontés. » On l'écoutait en silence, on se regardait avec surprise et douleur. Sancho, qui jusqu'à ce moment n'avait pu croire son maître en danger, tombe à genoux auprès du lit et se met à fondre en larmes. Le malade, lui tendant la main, le pria de le laisser avec monsieur le curé. Sa confession ne fut pas longue. Hélas, son cœur était si pur. Lui-même rappela tout le monde. La gouvernante, la nièce, arrivèrent en poussant des cris. Don Quichotte les consola. Lorsque le notaire fut venu, il lui dit de commencer son testament dans les formes ordinaires. Ensuite, rassemblant le peu de force qui lui restait, il se souleva, s'assit sur son lit et d'une voix faible dicta ces paroles. « Je laisse à mon ami Sancho Panza, que j'appelais mon écuyer dans le temps de ma folie, 200 écus, que l'on prendra sur le plus clair de mon bien. De plus, tout l'argent que je lui confiais lorsque nous partîmes ensemble, défendant à mes héritiers de lui en demander jamais compte et ne regrettant des extravagances dont il a si souvent été le témoin que l'espoir qu'elle me donnait de lui faire une grande fortune. « Non, monsieur, interrompt Sancho en pleurant et voulant empêcher le notaire d'écrire. Non, monsieur, vous ne mourrez point. Il n'est pas possible que vous mouriez. Suivez mes conseils, mon cher maître, vivez, vivez, et bannissez ce noir chagrin qui seul vous met dans l'état où vous êtes. Je ferai tout ce que vous voudrez. Nous irons où il vous plaira. Berger, chevalier, écuyer, tout m'est égal, pourvu que je sois avec vous. Je recommencerai, s'il le faut, à désenchanter Dulcinée. Si vous ne pouvez pas vous consoler du malheur d'avoir été vaincu, je dirai que c'est ma faute. Je déclarerai, j'affirmerai par serment que j'avais mal sanglé Rocinante, que c'est à moi seul que l'on doit s'en prendre, et que jamais... » Bien obligé, mon pauvre Sancho, interrompit doucement le malade. Tu m'as vu si souvent insensé que tu ne dois pas croire encore que je sois devenu sage. Oublions nos vieilles erreurs, sans oublier notre vieille amitié. C'est toujours ton ami qui t'écoute, mais ce n'est plus Don Quichotte. Et pour me servir avec toi d'un de ces proverbes que tu aimais tant, je te dirai que les oiseaux de l'an passé ne se trouvent plus dans le nid. Laisse-moi continuer, mon enfant, et reçois mon tendre regret de ne pouvoir te faire plus de bien. Il institue alors pour son héritière Antonine Kixana, sa nièce, à la charge de payer une pension à son ancienne gouvernante et de faire quelques présents qu'il indiqua comme des gages d'amitié au bachelier Carrasco, à maître Nicolas, à monsieur le curé, qu'il nomma son exécuteur testamentaire. Il finit par demander pardon des mauvais exemples qu'il avait pu donner lorsqu'il était privé de sa raison. Aussitôt que le notaire eut achevé ses tristes fonctions, Don Quichotte pria monsieur le curé d'aller chercher les sacrements. Il les reçut avec une piété, une résignation, une ferveur qui édifièrent tout le monde. Et le soir, étant retombé dans une grande faiblesse, il rendit son âme à Dieu.